Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Vous êtes sur France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Alors vous discutez ce matin avec Jérôme Jamin, professeur de sciences politiques à la faculté des droits de l'université de Liège, spécialiste des populismes européens. Votre sujet du jour, les congrès des nations et libertés qui aura lieu ce dimanche à Prague.
Oui, Dani. En effet, les principaux partis d'extrême droite sont en congrès ce dimanche à Prague. C'est le congrès de l'Europe des Nations et des Libertés, leur groupe au sein du Parlement européen, 37 députés et au moins 6 partis qui veulent peser maintenant au niveau intra-européen. Bonjour Jérôme Jamin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone avec nous, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Liège, directeur du Centre Démocratie. Alors je dis 6 partis approximativement parce que c'est un peu le blackout médiatique sur ce congrès de Prague. En tout cas, des partis d'extrême droite ou populistes qui engrangent des succès, c'est sûr, dans une année qui est marquée, on pourrait dire, par l'efficacité d'un paradigme anti-système et qui sont donc tentés de peser plus au sein de l'Union européenne depuis quelques années. 2014 au moins, et d'approfondir leurs relations. Le 26 septembre d'ailleurs, le FN français voyait dans les 94 sièges gagnés par l'AFD en Allemagne la victoire d'un allié. Mais il faut voir qu'aucun de ces partis, même le FPE en Autriche, ne peut encore gouverner seul. Et si la possibilité de gagner en a conduit certains à se polisser, ben, ils restent très divers, entre populistes eurosceptiques jusqu'à francs islamophobes. Certains sont en crise interne. Peut-être on pourrait commencer par clarifier justement tous ces partis dont on va parler, je disais 6 à peu près des grands partis qui vont être présents à Prague, mais il y avait le Figaro en France qui recensait 89 partis ou organisations partisanes qui se sont présentés à 250 élections européennes sur ces 15 dernières années quand même.
Oui, en fait, c'est assez compliqué de mettre de l'ordre par rapport à tous ces partis parce que d'abord, il n'y a pas du tout d'accord sur comment il faut les catégoriser. Certains disent que c'est simplement du populisme de droite, du populisme conservateur, du populisme anti-immigré. D'autres considèrent qu'on est vraiment devant des partis d'extrême droite avec parfois un enracinement historique lié au fascisme historique. Et donc, il y a une très grande variété de partis et je ne dis pas que j'attends peu de ce congrès, mais disons que c'est une vieille histoire, la tentative de structuration. Déjà dans les années 90, Jean-Marie Le Pen essayait à l'échelle européenne de structurer ses partis politiques et très très rapidement, ils sont confrontés à des obstacles liés à l'idéologie, des obstacles liés au dérapage de tel ou tel parti qui amène tel autre parti à ne plus vouloir être solidaire. Je pense notamment à Geert Wilders aux Pays-Bas qui est hostile à toute forme de discours antisémite, donc il est très difficile de travailler avec lui. Si jamais on met dans un assemblage un parti politique qui, en interne, qui, sur la scène nationale, peut avoir un discours antisémite. Et donc, il y a une quantité de partis assez différents les uns des autres. Et ici, ceux qui essayent de discuter ensemble, ils ont tous un point commun. Je pense notamment au Front National Français, à la Ligue du Nord, au Parti de la Liberté Pays-Bas, au Parti Autrichien de la Liberté, ou encore le Vlaams Belang en Flandre, dans le nord de la Belgique. Leur particularité, c'est qu'ils ont une très longue expérience, entre 20 et 30 ans, voire 40 ans d'expérience politique. Certains ont déjà participé au pouvoir, la Ligue du Nord, notamment en Italie. D'autres ont déjà été aux portes du pouvoir, Front National Français. Et donc, le point commun de tous ces partis, c'est qu'ils ont déjà passé les étapes de dédiabolisation.
C'est
ils ça. Ils sont rentrés dans une phase où, pour une bonne partie de l'opinion publique, ils peuvent arriver au pouvoir, où ils ont déjà été au pouvoir, et donc ils peuvent revenir au pouvoir. Et je pense qu'entre ces partis-là, il y a une structuration, et elle pourrait se renforcer. Alors, il est question maintenant de l'alliance, de l'alternative pour l'Allemagne, mais c'est un parti beaucoup plus récent, qui n'a pas du tout d'origine d'extrême droite.
Alors, je vous interromps, pardon, vous en parlez, mais quand même, sur le plan simplement stratégique, il y a eu une alliance en début d'année, c'est pour ça que je parlais de ce congrès de Koblenz, entre Alternative pour l'Allemagne, donc l'AFD, et le Front National qui disait vouloir constituer une sorte de couple franco-allemand alternatif précisément pour cette nouvelle Europe. On a vu Marine Le Pen également, là il faut bien dire un mot de la France, mais pousser pour un nouveau traité européen en 10 points. Donc il y a bien une entente au moins entre ces deux et peut-être deux ou trois autres partis sur cette ligne intra-européenne, on pourrait dire, qui s'approfondit depuis 2014, non ?
Et je pense qu'il y a sans doute une ligne commune entre le Vlaams Belang, le FPÖ autrichien, le Parti de la Liberté des Pays-Bas, la Ligue du Nord et le Front National Français, l'AFD. C'est un parti extrêmement récent, qui est plutôt ancré à droite, qui est conservateur et qui a en son sein un certain nombre d'individus qui jouent la carte xénophobe et islamophobe. Mais ce parti est récent, il n'a pas du tout la même histoire que tous les autres partis. Donc je ne suis pas sûr du tout qu'il va prendre le risque de rentrer dans une telle alliance sur le long terme, parce que ça peut évidemment avoir des conséquences pour lui. Par contre, il est vrai que pour les autres partis, c'est l'allié idéal, parce que en termes d'exigences au niveau du Parlement européen pour obtenir des subsides, pour obtenir du personnel, ils ont toujours été limites, les différents partis qui ont créé cette alliance. Et avec l'AFD, on commence très sérieusement à avoir une bonne partie des grands pays européens qui sont représentés. Donc c'est une opportunité, mais je ne suis pas sûr du tout que l'AFD en son sein restera longtemps sur cette ligne.
Et vous faites bien de reparler de l'AFD, c'est effectivement un parti dont vous avez souligné qu'il est récent. Il est en train d'ailleurs de se diviser de manière peut-être un peu surprenante à l'issue des élections législatives en Allemagne. Il a perdu Frau Köpetri, qui était sa numéro 2, précisément parce qu'elle a dénoncé une radicalisation de ce parti. Est-ce que c'est à envisager que, justement, face à cette nouvelle ligne intra-européenne, finalement, un des effets indésirés pour ces partis de droite ou populistes, c'est une division interne sur cette question du soutien à l'Europe ou des thèmes trop anciens ou trop clivants.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que au niveau de l'AFD, comme tous les nouveaux partis, il y a à la fois, je dirais, l'excitation d'une victoire électorale, et c'est quand même de nombreux députés qui rentrent au Parlement fédéral allemand, mais en même temps, c'est un parti qui est récent et qui n'est pas marqué à l'extrême droite, même si en son sein, il y a des individus qui ont des discours xénophobes et racistes, et donc c'est pour un enjeu énorme de prendre le risque ou non d'être marqué à l'extrême droite, tant sur la scène nationale, parce que les Allemands, comme les Français et comme de nombreux pays européens, sont très vigilants par rapport à la question de l'extrême droite. Et donc, un petit peu comme en France, où lorsque on appartient au Front National, on prend le risque d'être banni d'un certain nombre de cercles politiques, d'être exclu des coalitions, on fait face au Front Républicain. En Allemagne, c'est la même chose. Donc, à l'AFD, ils réfléchissent à deux fois avant, je dirais, de s'orienter dans une direction plus radicale qui conviendrait certainement à la structuration de l'extrême droite européenne avec les autres pays dont on vient de parler, mais qui peut être suicidaire sur le plan interne, même si l'AFD a la chance en Allemagne, je dirais, de ne pas être associée à l'extrême droite néo-nazie qui n'a jamais percé, je pense notamment au NDP, au Républicaneur, c'est un peu plus ancien, à 15-20 ans. À ce stade, l'alternative pour l'Allemagne parvient à ne pas être marquée à l'extrême droite, mais c'est un risque énorme. En fait, le problème de cette structuration à l'échelle européenne, c'est que dès que vous rentrez dans ce type de groupe, vous prenez pour vous tous les risques des autres. En d'autres termes, il suffit qu'il y ait un dérapage au Parti autrichien de la Liberté ou à la Ligue du Nord demain pour qu'on accuse l'AFD d'être en coalition avec un parti d'extrême droite. Donc c'est un jeu très risqué.
Un jeu risqué, d'autant que, je le précisais, il y a un certain nombre d'élections nationales à venir, donc des échéances pour certains de ces partis, comme le Jobbik en Hongrie, avec des élections législatives, alors qu'ils se trouvent en position de challenger. Et alors, pour terminer, l'un dans l'autre, quelle lecture est-ce que vous faites de cette année 2017, je disais, victoire un peu d'un paradigme, on pourrait dire, d'un discours anti-système. On l'a vu, c'est un peu l'année Donald Trump cette année. En même temps, des victoires quand même en demi-teinte pour beaucoup de ces partis, élections législatives aux Pays-Bas, également en Autriche, qui n'ont pas complètement abouti, ou en Allemagne, on parlait de l'AFD. Le momentum est perdu, comme je le disais en introduction.
Alors, une chose est sûre, c'est que on ne retiendra pas du Brexit ou de l'élection de Donald Trump qu'ils ont été porteurs de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans de nombreux pays européens. Certains ont voulu présenter ces événements de cette manière, mais quand vous voyez ce qui est advenu de Nigel Farage, du UKIP, qui avait porté le Brexit au Royaume-Uni, quand vous voyez l'embarras dans lequel est le Royaume-Uni aujourd'hui, je ne pense pas, au final, que le Brexit soit quelque chose de positif pour l'avenir de l'extrême droite. Par contre, c'est quelque chose de positif pour toute une partie du Parlement européen qui est conservatrice et qui veut mettre un coup d'arrêt au développement de l'Europe. Donc je répondrai à votre question en disant que cette année, elle ne sera pas l'année des succès électoraux de l'extrême droite, mais sans doute l'année du succès des idées anti-européennes, des idées conservatrices et d'une certaine forme de rejet de l'Europe, des échanges commerciaux, de la mondialisation. Ça, c'est certain. C'est donc plus une victoire des idées que des partis en tant que tels, d'où le problème des partis qu'on a évoqués, mais aussi le défi des partis comme Jobbik en Hongrie, qui sont confrontés à des partis au pouvoir ultra-conservateurs, notamment le parti Fidesz de Viktor Orban.
Qui chassent sur leur terre, en quelque sorte.
Oui, donc moi je pense que c'est plutôt une victoire du conservatisme et d'une volonté de marquer un coup d'arrêt au développement de l'Europe, quitte à réfléchir quelque temps pour voir s'il faut faire marche arrière ou pas, ou s'il faut sortir de l'euro, parce que cette question aussi n'a finalement pas tellement tourné en faveur de l'extrême droite française, hein, la question de la sortie de l'euro. Donc il y a, je crois, une fracture importante entre les partis qui tentent de se structurer et d'autres qui sont restés beaucoup plus radicaux. On n'a pas parlé de Aube Dorée en Grèce ou du British National Party au Royaume-Uni, qui eux sont restés dans un discours plus ancien, antisémite, xénophobe, etc., sans tentative de modification de discours. Et voilà, certaines idées eurosceptiques, certaines idées sur l'identité, certaines idées sur le rejet du commerce et de la mondialisation ont réussi à s'imposer, on peut le regretter ou pas, mais ça c'est une réalité. De là à ce que ça se transforme en victoire électorale pour ces partis, je n'en suis pas sûr.
C'est ça, et Aube Dorée et le British National Party ou British Unity qui font partie d'une autre coalition, il faut le dire, voilà. Que ce mouvement Europe des Nations et Liberté. À suivre en tout cas l'élection législative en Hongrie l'année prochaine, législative en Bavière également et élection européenne en 2019. Merci Jérôme Jamin, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Liège, directeur du Centre Démocratie.
Merci.